Cette lettre, Hortense, après l'avoir lue, la jeta au fond d'un tiroir, en disant avec résolution « Je n'irai pas !» D'abord, si elle avait attaché jadis quelque importance à ce bijou, qui lui semblait avoir la valeur d'un porte-bonheur, elle ne s'y intéressait guère aujourd'hui que la période des épreuves paraissait terminée. Ensuite, elle ne pouvait oublier ce chiffre de 8 qui était le numéro d'ordre de l'aventure nouvelle. S'y lancer, c'était reprendre la chaîne interrompue, se rapprocher de Rénine et lui donner un gage qu'avec son adresse insinuante, il serait bien exploité. L'avant-veille du jour fixé la trouva dans les mêmes dispositions. La veille au matin également. Mais tout à coup, sans même qu'elle eût à lutter contre des tergiversations préalables, elle courut au jardin, coupa 3 brins de jonc qu'elle tressa comme elle en avait l'habitude au temps de son enfance, et à midi, elle se faisait conduire au train. Une ardente curiosité la soulevait. Elle ne pouvait résister à tout ce que l'aventure offerte par Rénine promettait de sensations amusantes et neuves. C'était vraiment trop tentant. Le collier de jais, la toque au feuillage d'automne, la vieille femme au chapelet d'argent. Comment résister à ces appels du mystère? Et comment repousser cette occasion de montrer à Rénine ce dont elle était capable? Et puis quoi? Se disait-elle en riant. C'est à Paris qu'il me convoque. Or, la 8e heure n'est dangereuse pour moi qu'à 100 lieues de Paris, au fond du vieux château abandonné de Halingre. La seule horloge qui puisse sonner l'heure menaçante, elle est là-bas, enfermée, captive. Le soir, elle débarquait à Paris. Le matin du 5 décembre, elle achetait un collier de jais qu'elle réduisait à 75 boules. Elle se parait d'une robe bleue et d'une toque en feuillage roux. Et à 4 heures précises, elle entrait dans l'église de Saint-Étienne-du-Mont. Son cœur battait violemment. Cette fois, elle était seule. Et comme elle sentait maintenant la force de cet appui auquel, par crainte irréfléchie plutôt que par raison, elle avait renoncé. Elle cherchait autour d'elle, espérant presque le voir. Mais il n'y avait personne. Personne qu'une vieille dame en noir, debout, près du bénitier. Hortense marcha vers elle. La vieille dame, qui pressait entre ses doigts un chapelet au grain d'argent, lui offrit de l'eau bénite, puis se mit à compter une par une les boules du collier qu'Hortense lui tendit. Elle murmura
« 75. C'est bien. Venez. »
Sans un mot de plus, elle trottina sous la lueur des réverbères, franchit le pont des Tournelles, s'engagea dans l'île Saint-Louis et suivit une rue déserte qui la conduisit à un carrefour où elle s'arrêta devant une ancienne maison à balcon de fer forgé.
« Entrez !»
Et la vieille dame s'en alla. Hortense vit alors un magasin de belle apparence qui occupait presque tout le rez-de-chaussée et dont les vitres étincelantes de lumière électrique laissaient apercevoir un amoncellement désordonné d'objets et de meubles anciens. Elle demeura là quelques secondes, regardant d'un œil distrait. L'enseigne portait ces mots « Au dieu Mercure » et le nom du marchand, Pancardi. Plus haut, sur une avancée qui bordait la base du premier étage, une petite niche abritait un mercure en terre cuite posé sur une jambe, des ailes aux pieds, le caducé à la main et qui, remarqua Hortense, un peu trop penché en avant, entraîné par sa course, aurait dû logiquement perdre l'équilibre et piquer une tête dans la rue. « Allons !» dit-elle à demi-voix. Elle saisit la poignée et entra. Malgré le bruit de sonnette et de grelots que fit la porte, personne ne vint à sa rencontre. Le magasin semblait vide. Mais tout au bout, il y avait une arrière-boutique et une autre à la suite, toutes deux remplies de bibelots et de meubles dont beaucoup devaient avoir une grande valeur. Hortense suivit un passage étroit qui serpentait entre deux parois d'armoires, de consoles et de commodes, monta 2 marches et se trouva dans la dernière pièce. Un homme était assis devant un secrétaire et compulsait des registres. Sans tourner la tête, il dit «
Je suis à vous. Madame peut visiter.
Cette pièce-là ne contenait que des objets d'un genre spécial qui la rendait pareille à quelques laboratoires d'alchimistes du Moyen-Âge. Chouette empaillée, squelette, crâne, alambic de cuivre, astrolabe. Et partout, suspendus au mur, des amulettes de toute provenance, où dominaient des mains d'ivoire et des mains de corail, avec les deux doigts dressés qui conjurent les mauvais sorts.
Est-ce que vous désirez particulièrement quelque chose, madame ?
Dit enfin le sieur Pancardi qui ferma son bureau et se leva. C'est bien lui, pensa Hortense. Il avait en effet un teint extraordinairement mat. Une barbiche grisonnante à deux pointes allongeait son visage, que surmontait un front chauve et terne, en bas duquel luisaient, à fleur de peau, deux petits yeux inquiets et fuyants. Hortense, qui n'avait point enlevé sa voilette ni son manteau, répondit
« Je cherche une agrafe de corsage. »«
Voici la vitrine, »
dit-il en la ramenant vers la boutique intermédiaire. Après un coup d'œil sur la vitrine, elle prononça
« Non, non, il n'y a pas ce que je veux. Ce que je veux, ce n'est pas telle ou telle agrafe, mais une agrafe qui a disparu autrefois d'une boîte à bijoux et que je viens chercher ici. »
Elle fut stupéfaite de voir le bouleversement de ses traits. Ses yeux devenaient hagards.
Ici, je ne pense pas que vous ayez aucune chance. Comment est-elle ?
En cornaline, sertie dans du filigrane d'or, et de l'époque 1830.
Je ne comprends pas. Pourquoi me demandez-vous cela ?
Elle ôta sa voilette et retira son manteau. Il recula, comme devant un spectacle qui l'eût épouvanté, et murmura
« La robe bleue, la toque, oh, est-ce possible, le collier de G ?»
Ce fut peut-être la vue de la cravache aux trois baguettes de jonc qui lui donna la plus violente commotion. Il tendit le doigt vers elle, se mit à vaciller sur lui-même, et à la fin, battant l'air de ses bras comme un nageur qui se noie, il tomba sur une chaise, évanoui. Hortense ne bougea pas. « Quelle que soit la comédie qu'il puisse jouer, avait écrit Rénine, ayez le courage de rester impassible. » Bien qu'il ne jouât peut-être pas la comédie, cependant elle se contraignit au calme et à l'indifférence. Cela dura une ou deux minutes, après quoi le sieur Pancardi sortit de sa torpeur, essuya la sueur qui lui baignait le front et, cherchant à se maîtriser, reprit d'une voix tremblante
« Pourquoi vous êtes-vous adressé à moi ?»«
Parce que cette agrafe est en votre possession. »«
Qui vous l'a dit ? »
fit-il sans protester contre l'accusation.
« Comment le savez-vous ? » ?»«
Je le sais parce que cela est. Personne ne m'a rien dit. » Je suis venu avec la certitude de trouver mon agrafe ici et avec la volonté implacable de l'emporter.
Mais vous me connaissez, vous savez mon nom.
Je ne vous connais pas, j'ignorais votre nom avant de le voir sur votre magasin. Pour moi, vous êtes simplement celui qui me rendra ce qui m'appartient.
Il était très agité. Il allait et venait dans un petit espace laissé par un cercle de meubles empilés, sur lesquels il frappait stupidement au risque d'en démolir l'équilibre. Hortense sentit qu'elle le dominait, et, profitant de son désarroi, elle lui ordonna brusquement, avec un ton de menace,
« Où se trouve cet objet ? Il faut me le rendre ! Je l'exige !»
Pancardi eut un moment de désespoir. Il joignit les mains et marmotta des mots de supplication. Puis, vaincu, soudain résigné, il articula «
Vous l'exigez.
Je le veux. Cela doit être.
Oui, oui, cela doit être. J'y consens.
Parlez,
commanda-t-elle plus durement encore.
Parlez, non, mais écrire. Je vais écrire mon secret. Et tout sera fini pour moi.
Il retourna devant son bureau et traça fiévreusement quelques lignes sur une feuille qu'il cacheta.
Tenez, voici mon secret. C'était toute ma vie.
Et en même temps, il porta vivement contre sa tempe un revolver qu'il avait sous un monceau de papier. Et il tira. D'un geste rapide, Hortense lui heurta le bras. La balle troua la glace d'une psyché. Mais Pancardi s'affaissa et se mit à gémir comme s'il eût été blessé. Hortense fit un grand effort sur elle-même pour ne pas perdre son sang-froid.
Rénine m'a prévenu. C'est un comédien. Il a gardé l'enveloppe. Il a gardé son revolver. Je ne serai pas sa dupe.
Cependant, elle se rendait compte que, si elle restait calme en apparence, cette tentative de suicide et cette détonation l'avaient complètement désemparée. Toutes ses forces étaient désunies comme un faisceau dont on a coupé les liens. Et elle avait l'impression pénible que l'homme qui se traînait à ses pieds, en réalité, reprenait peu à peu l'avantage sur elle. Elle s'assit, épuisée. Ainsi que Rénine l'avait prédit, le duel n'avait pas duré plus de quelques minutes. Mais c'était elle qui avait succombé, par la faute de ses nerfs de femme, et à l'instant même où elle pouvait croire à son triomphe. Le sieur Pancardi ne s'y trompa point, et sans prendre la peine de chercher une transition, il cessa ses jérémiades, se releva d'un bond, esquissa devant Hortense une manière d'entrechat qui montra toute sa souplesse, et s'écria d'un ton goguenard « Pour la petite conversation que nous allons avoir, je crois gênant d'être là à la merci du premier client qui passe, n'est-ce pas ?» Il courut jusqu'à la porte d'entrée et, l'ayant ouverte, il abattit le tablier de fer qui clôturait la boutique. Puis, toujours sautillant, il rejoignit Hortense.
« Ouf ! J'ai bien cru que j'y étais. Un effort de plus, madame, et vous gagnez la partie. Mais aussi, je suis un naïf, moi. Et il m'a semblé vous voir arriver du fond du passé comme un émissaire de la Providence pour me réclamer des comptes, et bêtement, j'allais restituer... Ah, mademoiselle Hortense, laissez-moi vous appeler ainsi, c'est sous ce nom que je vous connaissais. Mademoiselle Hortense, vous manquez d'estomac, comme on dit. »
Il s'assit auprès d'elle et la figure méchante, brutalement, il lui lança.
« Maintenant, il s'agit d'être sincère. Qui est-ce qui a machiné cette histoire ? C'est pas vous, hein ? C'est pas votre genre. Alors qui ? Dans ma vie, j'ai toujours été honnête, scrupuleusement honnête. Sauf une fois. Cet agrafe. Et tandis que je croyais l'affaire finie, enterrée, voilà que ça remonte à la surface. Comment ? Je veux savoir. »
Hortense n'essayait même plus de combattre. Il pesait sur elle de toute sa force d'homme, de toute sa rancune, de toute sa peur, de toute la menace qu'il exprimait par ses gestes furieux et par sa physionomie à la fois ridicule et mauvaise.
« Parlez ! Je veux savoir ! Si j'ai un ennemi secret que je puisse me défendre, quel est cet ennemi ? Qui vous a poussé ? Qui vous a fait agir ? Est-ce un rival que ma chance exaspère et qui veut à son tour profiter de l'agrafe ? Mais parlez donc, nom d'un chien ! Ou je vous jure Dieu ! »
Elle s'imagina qu'il faisait un mouvement pour reprendre son revolver et recula en tendant les bras avec l'espoir de s'échapper. Ils se débattirent ainsi, l'un contre l'autre, et Hortense, qui avait de plus en plus peur, non pas tant de l'attaque probable que de la figure convulsée de son agresseur, commençait à crier, lorsque le sieur Pancardi resta subitement immobile, les bras en avant, les doigts écartés et les yeux dirigés par-dessus la tête d'Hortense.
« Qu'est-ce qui est là ? Comment êtes-vous entré ?»
Hortense n'eut même pas besoin de se retourner pour être sûre que Rénine venait à son secours et que c'était l'apparition inexplicable de cet intrus qui effarait ainsi l'antiquaire. De fait, une silhouette mince glissa hors d'un amas de fauteuils et de canapés et Rénine avança d'un pas tranquille.